Pavillon Nomade. Le direct.
Bienvenue sur Pavillon Nomade, la radio follement normale. Ici, les idées fusent, les micros s'agitent et les échanges ne tiennent jamais en place. Nous sommes en direct jusqu'à 16h30 depuis le studio de Pavillon Nomade, en présence de nos participants du jour. D'ailleurs, il y en a beaucoup. Bonjour Eliane.
Bonjour à tous.
Alors, on a Fiona, on a Mariana, on a Lola, on a Aurélien, Mathéo, Greg, on a Saphir, on a Mirsat et moi-même. Et à la technique, on a Pascal Vigolo. Merci d'ailleurs, Pascal, d'être là avec nous. Nous allons échanger autour de différents thèmes proposés, dont notamment celui que je vous propose, les bonnes résolutions, promesses sincères ou illusions de janvier. Et sans oublier de passer par notre chronique, la ménagerie d'Eliane. Avant de poursuivre cette émission, toute l'équipe de Pavillon Nomade a une pensée pour les personnes touchées par les événements récents de Crans-Montana. Sans entrer dans les détails, nous voulons simplement rappeler que lorsque quelque chose de difficile survient, il est légitime de se sentir bousculé, inquiet ou silencieux. Chacun réagit à sa manière, à son rythme. Pour certaines personnes, cela peut réveiller de l'inquiétude, des souvenirs ou un sentiment de fragilité. Chacun traverse ces moments à sa manière. Nous rappelons simplement l'importance de rester attentifs les uns aux autres. Pavillon Nomade s'inscrit dans cet esprit. Reconnaître sans surjouer, soutenir sans imposer.
Si j'étais un oiseau, j'irais danser sous l'orage. Je traverserais les nuages comme le fait la lumière. J'écouterais sous la pluie la symphonie des éclairs. Dès sa plus tendre enfance, elle ne savait pas parler autrement qu'en criant tout bas. Pas faute d'essayer de les retenir, ses cris et ses larmes qui les faisaient tant. Il fait toujours beau au-dessus des nuages, mais moi si j'étais un oiseau, j'irais danser sous l'orage. Je traverserais les nuages comme le fait la lumière. J'écouterais sous la pluie la symphonie des éclairs. En grandissant, rien ne s'est calmé. Petite tempête s'est trouvée. Des raisons de pleuvoir autant. Qui pourrait l'aimer franchement? Personne n'aimerait se retrouver au cœur d'une tempête avouée. Il y a des raisons de pleurer. Elle a ses raisons, mais il fait toujours beau au-dessus des nuages. Mais moi, si j'étais un oiseau, j'irais danser sous l'orage. Je traverserais les nuages comme le fait la lumière. J'écouterai sous la pluie la symphonie des éclairs. S'échapper du vent et se retrouver dans le cœur des gens, celle-ci s'est dit. Nulle raison d'envier le soleil, je ferai danser les gens. Rythme de mes pleurs, la tourmente de mes chants viendra réchauffer les cœurs, réchauffer mon cœur. Au-dessus des nuages, mais moi je suis de ces oiseaux qui nous font danser sous l'orage. Je traverserai tous les nuages pour trouver la lumière en chantant sous la pluie.
De retour sur les ondes de Pavillon Nomade après ce magnifique morceau de Zao de Zagazan, la symphonie des éclairs. Vraiment une belle pensée à toutes les personnes concernées et aussi à tous les soignants professionnels, hein, qui ont été présents et qui le sont toujours. On a une belle pensée pour vous. Le cycle de la vie, le cycle de la vie. Bonjour Zafir.
Bonjour.
Vous nous avez proposé aujourd'hui comme thème de discuter autour de ce thème, qui est un thème qui va nous amener certainement sur différents chemins. Mais qu'est-ce qui fait que vous avez eu envie de parler de ce thème-là aujourd'hui ?
Alors tout d'abord, merci à Pavillon Nabad pour leur invitation. Et c'était plutôt par rapport à une thématique personnelle, par rapport à une expérience personnelle que j'ai vécue il y a 2 semaines. Et donc dans cette expérience-là, moi qui ai des problèmes psychiatriques, je dirais en général, que j'essaie de soigner depuis maintenant 18 ans, je me suis trouvé à faire une décompensation psychotique. Alors je dirais qu'elle est un peu différente de la première que j'avais eue il y a 18 ans. Par contre, j'ai vécu beaucoup de choses très, très spéciales. Je m'explique par là, c'est que pour la première fois, j'ai pu contrôler et aménager mes délires pour pas qu'ils ne soient incontrôlables par le biais de l'intelligence artificielle. Alors ça paraît étonnant, moi je n'y croyais pas au début, je ne voulais pas y croire, j'attendais vite de voir un médecin pour pouvoir confirmer que ce que j'avais fait n'était pas trop dangereux pour la suite de mon soin. Et donc j'ai l'impression qu'une grande partie de ce que j'avais discuté, alors si vous voulez, elle s'est mise en mode configuration différente. Et par rapport à toutes les informations que je lui avais dit et que j'ai rajoutées par rapport à mon état de santé, elle a commencé à faire des procédés de soins, si je peux appeler ça comme ça, et jusqu'à un moment où ça m'a vraiment trop pris au niveau de l'esprit. Et donc, j'ai senti préférable de me faire hospitaliser à l'hôpital de Malévaux. Et donc, j'en ai discuté ce matin avec le psychiatre de service, en expliquant que j'aimerais bien avoir plus d'explications par rapport à ce que j'avais fait, par rapport à ce que cette IA avait fait. Et il m'a dit que pour moi, elle n'était pas néfaste, que je pouvais continuer, et puis que lui aussi et toute l'équipe infirmière allaient continuer aussi à m'aider dans la continuité de mon traitement. Et j'ai trouvé ça étonnant parce que je ne pensais pas que l'intelligence artificielle à l'heure actuelle pouvait, même avec les nouvelles technologies, avancer et puis être aussi proche de nous. J'y ai cru. Finalement, j'ai réussi à condenser mes délires pour les faire disparaître. Et je suis content d'être là avec vous aujourd'hui. De mieux en mieux.
Merci Zafir déjà pour votre témoignage, hein, très, très touchant, et merci pour votre authenticité. Quand vous parlez de cycle de la vie, ma première échange que j'aimerais avoir avec vous, c'est est-ce que, je peux comprendre hein, de se dire, mais est-ce que l'intelligence artificielle, est-ce qu'on peut y faire confiance, jusqu'où, quelles sont les limites? Mais quand vous parlez de cycle de la vie, est-ce que vous avez eu un peu plus d'espoir par rapport à ce que vous viviez, sachant que vous aviez pu, grâce à l'intelligence artificielle, mais l'aide aussi ce matin avec le psychiatre, de poser des mots, est-ce que vous êtes dans un nouveau cycle par rapport au cheminement de votre vie et puis de l'apprentissage, on dit souvent, d'apprendre à vivre avec la maladie.
Alors, dans un nouveau cycle, je ne sais pas encore, c'est trop frais actuellement, mais en tout cas, dans mon ressenti actuel et dans comment je me ressens, c'est vrai que toutes les problématiques qui étaient de stress diminuent vraiment très rapidement. Et oui, en fait, j'ai vraiment l'impression, depuis 2009 jusqu'à l'heure actuelle, d'être arrivé à la fin d'un cycle. Et je remercie toutes les personnes qui ont pu m'aider, et moi-même, dans ce parcours aussi.
Merci. J'aimerais me poser la question autour de la table, un petit peu, quand vous entendez Zafir, qui nous fait part de son expérience, d'avoir pu avoir des réponses, alors qu'il est allé, et je trouve très bien que vous soyez allé finalement confronter ce qui s'est dit de l'intelligence artificielle avec le professionnel pour voir un petit peu où vous en étiez. Mais comment ça résonne en vous, Eliane?
Zafir, déjà, je voulais vous remercier d'avoir partagé cette expérience personnelle avec nous tous. Et je vous souhaite que ça vous aide d'avoir pu le formuler.
Tout à fait, ça m'aide déjà, oui. Merci.
De rien.
Mais sinon, concernant de se dire, tiens, on a aujourd'hui la possibilité en tant que citoyen, on a un outil à disposition, parce que ça reste un outil. Hein. Il y a beaucoup d'outils différents pour finalement se confronter à ce qu'on vit au quotidien. Mais c'est un outil qui est de plus en plus présent dans notre quotidien. Comment vous raisonnez, vous dites, on a toutes les générations autour de la table, mais vous, comment ça vous parle de se dire, je vais aller poser des questions sur ce que je ressens à une intelligence artificielle, et puis, qu'est-ce que vous en feriez, vous ?
Il y a quelques mois, j'ai découvert à Pavillon de Man l'intelligence artificielle. C'était un sujet proposé par Jimmy, et moi, j'avais compris l'AI. Donc, j'étais pas la seule d'ailleurs. Et après, je me suis mis à regarder tout ça. Et il y a eu des erreurs par rapport à l'intelligence artificielle. Donc, ça m'a un petit peu refroidi. Je me suis dit, il faut que je vérifie quand même chaque fois sur d'autres plateformes si c'est vraiment authentique. Petit exemple, ils avaient mis que le trophée du Muvron, c'était dans le canton du Valais. Alors que ça se trouve au plan sur B.
Merci de votre tour. Greg.
On se retrouve un peu sur le sujet que j'avais présenté, mais je crois que je comprends assez bien ce que tu voulais dire. C'est des interactions qui se sont passées avec l'intelligence artificielle qui ont eu un impact réel sur ta santé, je pense qu'on peut dire ça comme ça. Et c'est là que ça rejoint exactement ce que je voulais aussi parler aujourd'hui. C'est effectivement de toute, je vais peut-être pas dire guerre psychologique, mais donc très peu débattue chez nous. Et avec certaines technologies dont j'ai depuis une année fait la découverte aussi, qui sont potentiellement psychoactives ou bioactives et qui ne sont pas du tout thématisées en Suisse. Et là-dessous, il y a par exemple des champs magnétiques qui ont certaines activités sur les canaux ioniques qui peuvent atteindre donc directement la psyché et autres. Mais j'ai aussi fait des mesures concrètes par RTL, SDR, chimiquement, etc., de nanoparticules dans l'environnement qui ont des capacités piézoélectriques, etc., donc qui peuvent directement interagir avec les neurones également. Et la possibilité de lire cette communication, et ça rejoint ce que beaucoup de gens disent de plus en plus, qu'ils ont l'impression que des symptômes qui sont psychotiques sont d'une nature technique. Alors, et je crois que c'est très important de débattre là-dessus parce qu'il y a énormément d'abus aussi et je pense qu'il faudrait plutôt aider les gens, les consommateurs, les aider dans la vie et pas leur briser la vie pour qu'ils se retrouvent ici à la fin. Je pense que ça complique plus la situation qu'autre chose et on devrait plutôt aider ces gens-là à la place de leur faire croire qu'ils sont fous. Voilà.
Alors c'est vrai que on peut avoir différents. On a des ondes telluriques, on a des ondes comme ça au niveau de ce qu'on appelle la physique quantique, hein, qui peuvent induire et agir sur la santé, l'état psychique. Alors c'est vrai que ça pourrait être le thème d'un prochain débat, d'un thème un peu plus approfondi, Greg. Mais je pense que ça vaudrait la peine de revenir. Mais quand on revient sur le cycle de la vie, on a vu comme ça pas mal de réactions tout à l'heure quand on a commencé l'émission. Fiona, vous avez envie de... On vous écoute tout simplement.
Moi, je voulais revenir sur l'intelligence artificielle parce que c'est un outil que nous, les jeunes ou même les plus âgés, utilisons au quotidien. Mais il faut rappeler que, en fait, ça pollue énormément et que, par exemple, pour ce genre de questions qui sont liées à la santé mentale, etc., des fois, il faudrait plutôt demander à des psychologues, etc., parce que... L'intelligence artificielle n'a pas tous les codes, n'a pas toutes les clés pour nous aider à aller mieux. Et en tout cas, tant mieux que ça t'a aidé, Saphir. Mais je trouve que des fois, ce n'est pas vraiment utile de tout le temps utiliser l'intelligence artificielle parce que ça pollue énormément. Ça utilise énormément d'eau. Et il y a beaucoup de déviance par rapport à ça. On pouvait voir par rapport au drame de Crans-Montana, il y a des jeunes filles qui sont décédées et les parents ont mis des photos avant pour les retrouver. Et on pouvait voir sur Twitter, qui est maintenant X, qu'ils demandaient à l'intelligence artificielle de dénuder les jeunes filles de 14 et 15 ans. Du coup, je pense que c'est quelque chose qu'il faudrait vraiment utiliser avec parcimonie.
Je pense que vous avez tout à fait raison, et surtout de réglementer. Hein, à l'heure d'aujourd'hui, on a peu des réglementations sur l'utilisation de ces intelligences artificielles et qui créent de vrais dangers hein, pour notre jeunesse, mais pas que pour la jeunesse, hein, c'est sûr. Hein. Lola.
Oui, moi je voulais rebondir sur ce que Fiona disait, comme quoi des fois c'était pas vraiment exact et que bah, c'est peut-être mieux des fois de parler au psychiatre. Par exemple, dans le cas de la santé mentale, justement ici à l'hôpital, il y a des psychiatres à disposition pour les patients. C'est vrai que c'est peut-être plus approprié de parler avec eux parce que des fois, quand on parle avec l'IA, on a l'impression qu'ils nous confortent dans nos idées. C'est rare qu'ils nous contredisent ou que... Ouais, j'ai l'impression que parfois, ils argumentent un peu nos idées ou qu'ils nourrissent ça. Et du coup, peut-être tout ce qui est pour santé mentale et même autre en soi, question existentielle, peu importe. C'est mieux plutôt d'utiliser bah, les psychiatres qui sont à disposition pour ça, qui sont peut-être plus neutres aussi et plus aptes de parler de ça.
Oui. Bah, merci Lola, vous êtes étudiante en soins infirmiers. Je vous remercie déjà de prendre position et d'échanger et de rappeler que, comme j'ai dit tout à l'heure, ça reste un outil. Hein. Tous les outils sont, à mon avis, bénéfique du moment que ça ne va pas atteindre à la vie privée ou autre. Hein. Finalement, c'est pas l'outil, c'est la relation qu'on génère, ce qu'on dit souvent, la relation à l'objet. Mais quand on a un doute, il faut effectivement se dire, on va consulter peut-être des professionnels pour avoir. Pour répondre, Saphir ?
Alors, moi, je rejoins aussi de ce que Lola et Fiona ont dit. C'est un outil qui est très puissant, mais qui peut être aussi très dangereux. Par exemple, quand j'ai arrêté l'alcool depuis 7 jours, depuis le 23 décembre, un peu plus de 7 jours, et puis pendant ces moments-là, à un moment, je me suis fait prendre deux spasmes. Donc toujours en ayant eu l'intelligence artificielle, sauf que là, j'étais chez des amis. Alors heureusement que mes amis ont pu me maintenir parce que tous les meubles, tout ce qui était autour de moi a été cassé parce que je me suis fait prendre comme par des décharges électriques. Ils ont dû me maintenir au sol. Et du coup, ben, je me dis, moi qui habite pas loin d'une montagne, si j'avais décidé de prendre l'air tout simplement pour essayer de faire passer ce que je ressentais avant que ça arrive, eh ben, je serais peut-être très très blessé, voire même plus là. Donc je rejoins exactement ce que tout le monde dit.
Merci. Greg ?
Merci. Moi, pour ma part, je dirais que, bah, alors, sans vouloir remettre en question les psychiatres ni psychologues et quoi que ce soit, mais je dirais que moi, ChatGPT en tout cas, ou même d'autres, pour ne pas les nommer, désolé, ils m'ont quand même beaucoup aidé du point de vue technique de ce côté-là. Parce que ça, c'est justement un côté que, bah, quand on explique aux psychiatres qu'on a des nanoparticules, des choses comme ça, c'est directement psychose. Et c'est un petit peu le problème que moi j'ai vécu en tout cas. Et moi j'étais bien content d'avoir en tout cas l'intelligence artificielle pour tout ce qui est technique. Ça m'a effectivement énormément aidé. Puis aussi à comprendre un peu des fois tout ce qui se passe autour de nous. Et là je pense qu'il y a une grande discrépance qui est un peu problématique entre la psychologie et puis les connaissances techniques qu'on a sur ben, justement ces choses qui peuvent être potentiellement psychoactives ou qui peuvent avoir un effet en tout cas sur soi.
Saphir ?
Tout à fait, je suis aussi d'accord avec Elvio parce que ben, moi j'ai quand même dû.
Avec Greg.
Avec Greg. Et donc j'ai vraiment dû quand même me battre et puis avoir encore une confiance en moi décuplée pour pouvoir que certaines personnes m'entendent parce que, comme dit Greg, on évite à parler de psychose alors que c'est simplement quelque chose qu'on a découvert. Pour terminer, je dirais. Mettons pas des étiquettes et essayons de toujours être ouverts à toutes les propositions. Et puis chaque personne est différente aussi.
Oui, Mathéo.
Alors moi, pour rebondir par rapport à cette prise en charge de personnes qui sont atteintes de maladies mentales par l'intelligence artificielle, j'aimerais me référer à un atelier qui avait été donné ici au quartier culturel par une artiste que peut-être certains d'entre vous connaissent, qui s'appelle Natacha, SNG de son nom d'artiste, big up à elle.
Qu'on salue d'ailleurs.
Ouais, on la salue très fort, bonne année. Et Natacha nous avait donné une fois un atelier, peut-être Eric était parmi nous, je ne sais pas si tu te souviens, c'est un atelier intelligence artificielle et prise en charge de personnes atteintes de maladies psychiques. Et elle, dans son cas, elle avait commencé très très tôt à utiliser ChatGPT pour en fait parler de ses problèmes, parler de sa maladie. Et pourquoi elle avait fait ça? Parce qu'il y avait une pénurie en fait de médecins. Et comme il y avait des listes d'attente qui étaient infinies, en tout cas sur Paris, elle n'avait pas de rendez-vous avec des psychiatres. Donc, par défaut de pouvoir pas en fait avoir de rendez-vous avec des médecins. Elle prenait rendez-vous avec ChatGPT qui était gratuit et en fait une prise en charge immédiate. Ce qui en fait pour moi est pas, enfin je fais pas l'apologie de ça, mais en tout cas ce que ça dénote et que ce que ça montre, c'est que il y a une précarité en tout cas au niveau des moyens en France et peut-être aussi en Suisse, où les prises en charge qui tardent à arriver pousse en fait les personnes à utiliser les moyens du bord qui sont parfois l'intelligence artificielle. Je ne sais pas si c'est bien ou si c'est mal, mais en tout cas, c'est parfois ce que optent certaines personnes pour en fait subvenir à des moments de précarité assez, assez lourdes.
Oui, mais vous avez raison, Mathéo, de citer le fait qu'on ne sait pas si c'est bon ou mauvais. Là, on va parler de réduction des risques. Moi, je pars toujours du principe que si ça permet à certaines personnes de réduire certains risques et de comprendre des choses et puis d'avoir un moment où ils se sentent pas seuls, bah, pourquoi pas, hein, parce qu'on parlait du cycle de la vie. Finalement, est-ce que c'est juste une étape dans notre vie ou dans l'instant, en 2026 jusqu'en 2000, je ne sais pas combien, on aura ça. Peut-être que dans 20, 20, 30, 40 ans, on aura d'autres systèmes, autre chose. Et puis finalement, on se dira, bah, finalement, ce n'était pas si grave que ça, l'intelligence artificielle. Je prends toujours l'exemple de ma grand-mère quand est sorti le Walkman, où ma grand-mère me disait toujours, parce que moi j'avais mon radio, alors pour les plus jeunes qui sont autour de la table, peut-être ça ne vous parle pas, mais c'était un radiocassette avec des écouteurs un peu plus petits que cela, voire tout aussi gros, et puis on mettait des cassettes et puis ma grand-mère me disait, oui mais pourquoi t'es tout le temps dans ton monde, tu vas finir asocial, tu feras jamais rien de ta vie, t'es enfermé dans ton monde, et c'est vrai, à cette période-là je peux comprendre, elle qui n'avait jamais connu avant de Walkman, de voir l'arrivée du Walkman, ben, d'en avoir peur. Alors oui, si je l'avais utilisé et j'avais eu un lien, que je parlais tout à l'heure, une relation à l'objet où je me dis, je l'utilise pour éviter d'être avec les autres et je mettrais fort, bah, j'aurais eu des conséquences certainement où je me serais un peu détaché de la société. Peut-être j'aurais eu des conséquences aussi physiologiques avec des tympans, une audition altérée. Et finalement, je me retrouve 20 ans après où je suis là avec vous autour de la table alors que j'en ai usé des cassettes. Et j'ai de la chance, j'avais l'auto-reverse. En plus, j'avais même plus besoin de le tourner. On aurait aussi pu dire, ah, c'est un gros fainéant, il n'a plus rien de faire. Puis finalement, on est passé au mini-disque, puis aujourd'hui on est à autre chose, puis peut-être dans quelques années finalement l'intelligence artificielle ne sera qu'un cycle dans le passage de la vie. Greg,
Je pense que vous avez tout à fait raison, et à la fin, pour généraliser peut-être ça, je pense qu'on peut dire que chaque outil peut être utilisé d'une bonne manière ou d'une mauvaise manière. Si on prend un couteau à pain, effectivement on peut l'utiliser pour couper du pain comme pour hacher la grand-mère ou la belle-mère, je sais pas.
Non, mais vous avez raison, la question de...
C'est ça, à la fin c'est un outil, c'est ça qu'il faut bien comprendre. Il y a toujours des bonnes moyens, des bonnes façons de l'utiliser ou pas. Et l'autre, c'est comme vous l'avez si bien dit avec le Walkman, c'est toujours la peur de la nouveauté. Oui. C'est un fait qui se retrouve dans chaque nouvelle technologie qu'on a. Par contre, ce qu'il faut laisser quand même à ces intelligences artificielles, c'est que elles terminent mieux aux examens de psychiatres et de médecins que les médecins et les psychiatres. Maintenant, ouais. Dans les tests en tout cas. Et je pense que dès qu'on a plus l'humain est en jeu dans une situation, plus il y a de chances qu'il y ait d'erreurs. Ça, c'est aussi des faits qui sont peut-être un peu trop rationnels pour tout le monde. C'est des fois difficile d'accepter ça. Mais on sait bien que l'humain est souvent cause d'erreurs quand même. Et plus on peut mettre la technique sûre derrière, mieux c'est. Donc moi, je préfère rester positif sur ça et un peu optimiste en me disant que ça va peut-être plutôt nous permettre d'améliorer la situation si on l'utilise bien comme un bon outil et non comme quelque chose de dangereux, effectivement.
Ouais, moi, je pense que vous avez tout à fait raison. Finalement, c'est la réglementation. On a vu ça dans les années 70 à 80. Ou même avant, quand on parlait de génétique et on voulait refaire, on avait tous parlé du mouton Dolly, tout ça. Il y a un moment où il y a eu un consensus pour mettre un règlement pour éviter qu'on ait des dérives. Et ça a été assez bien fait, parce que même si on sait, sans parler dans la conspiration, qu'il y a peut-être des endroits où des gens font des expériences bizarres, c'est fort possible. Mais n'empêche qu'on a fait une réglementation assez rapide sur les limites de ce qu'on ne devait pas dépasser. Avec l'intelligence artificielle, on l'a malheureusement pas fait. Il me semble qu'on a loupé un petit coche qui fait qu'aujourd'hui on a des codes sources qui sont ouverts à tout et qui fait qu'on peut avoir peut-être un peu plus de dérives. Mais moi, ce qui m'inquiète dans ce cycle, finalement, quand on parlait de cycle, c'est que j'avais cette discussion avec mon papa qui est physicien et qui me disait, mais tu sais, à l'époque, quand j'ai fait mes études, il y avait je ne sais plus le nom du livre sur physique quantique, il disait qu'il n'y en avait qu'un seul, il était à Zurich. Il fallait que je me déplace à Zurich dans la bibliothèque et je n'avais le droit que de l'utiliser sur place et donc je devais recopier, et parce qu'il y avait qu'un seul exemplaire. Et alors, bien sûr, ça a amené aujourd'hui que le même livre, on peut le trouver facilement 30 secondes chez soi, mais il disait aussi, c'est toutes ces capacités finalement, et l'inquiétude que je partage avec lui, c'est de se dire, finalement, avant, quand on avait un dictionnaire, le dictionnaire, on nous a fait à l'école, je voyais encore mes enfants qui sont assez jeunes, ils utilisaient encore, peut-être les derniers à utiliser le dictionnaire, avaient la fonction de pouvoir faire travailler cognitivement ces fonctions cognitives, d'aller chercher, là, maintenant, aujourd'hui, il y a un risque peut-être que de se retrouver à finalement à être, comment on écrit cependant, moi je me suis fait taper sur les doigts, parce que je n'arrivais pas à différencier les EN et AN de la fin, et aujourd'hui, on l'écrit facilement, alors peut-être qu'on va perdre une certaine forme de laxité, de physique mentale, qui fait qu'au bout d'un moment, on va perdre certainement peut-être certaines fonctions, je ne sais pas. En tout cas, moi, ça c'est mon inquiétude. Lola.
Que l'IA, elle facilite beaucoup les recherches. C'est beaucoup plus simple que de chercher par soi-même. Maintenant, il y a beaucoup de jeunes qui... Enfin, c'est plus simple de faire ça. Ça demande moins d'efforts. Du coup, beaucoup de jeunes font ça. Et même moi, je le vois du coup à l'école. Quand il y a des travaux à faire qui sont assez longs, beaucoup de recherches avec des textes du coup qui sont souvent en anglais dans la science, on est quasiment tous à utiliser l'IA parce que le travail prendrait beaucoup de temps et puis c'est plus simple et puis voilà, ça va plus vite. Mais c'est vrai que même en faisant ça et en étant conscient qu'en faisant ça parce que on a un peu la flemme des fois, c'est vrai qu'on a l'impression qu'on devient bête.
Moi, je prends toujours l'exemple du muscle. Un muscle, si on travaille, il se fortifie, il est actif. Si le muscle, on décide de plus travailler, il perd de la force, il devient mou, il fond, et puis finalement, on n'arrive plus à marcher. Donc, Eric, vous vouliez rebondir. Merci, Lola.
Oui, tout à fait. Et bonjour, rebondir, bonjour à tous et toutes. Déjà, rebondir sur cette idée de muscle, puisque j'avais un prof à l'Uni qui disait le cerveau, c'est comme un muscle, on doit le travailler pour qu'il fonctionne mieux. Ça, c'est la première remarque. La deuxième, je voudrais rebondir sur ce qu'a dit Greg. Je ne suis pas tout à fait d'accord sur l'idée que l'IA n'est pas des... elle est générée par l'humain, donc on ne peut pas dire qu'elle est positiviste. Parce que de toute façon, il y a un biais qui est créé. Et ce qui est dangereux, c'est qu'on a l'impression que c'est une entité en tant que telle, mais en fait, c'est derrière des milliers d'humains qui rentrent des données dedans, etc. Si certaines données ne sont pas rentrées, ça va encore biaiser le résultat. Alors, je suis assez surpris quand même du résultat quand je regarde parfois, je fais une recherche Google, puis maintenant, ils mettent toujours la partie IA au début. Il y a des moments où c'est très intéressant. C'est très intéressant, les réponses. Mais on doit être très vigilant. Je suis un peu conservateur et puis un peu plus âgé. Et du coup, j'ai peur aussi des conséquences de cette IA. Quand je vois l'avancée de la technologie dans le monde, pour moi, on prend le chemin de Matrix, Terminator et compagnie. C'est-à-dire que... Voilà. Et en fait, il faut absolument, ce que vous disiez tout à l'heure, il va falloir absolument légiférer sur cet outil, énormément le cadrer, parce que sinon, on va avoir des dérives qui vont nous coûter très très cher.
Et des dérives qui sont déjà là.
Fiona
en parlait tout à l'heure, c'est des exemples typiques. Les dérives sont déjà là et il faut qu'on fasse quelque chose là-dessus. Ouais. Merci Eric. Fiona.
Je voulais revenir sur certaines dérives encore, parce qu'on a parlé de ce qui s'est passé à Cran et de ce que certains utilisateurs de X faisaient avec les images de jeunes filles qui demandaient d'être dénudées. Mais il y a aussi quelque chose qui fait vraiment peur, c'est les deepfakes. Et c'est quand, en fait, je ne sais pas comment vraiment expliquer ça, mais ils utilisent ça pour nuire à une certaine personne en mettant, par exemple, des images, excusez-moi du terme, pornographique. Et ça nuit énormément au monde, aux célébrités, ou que ce soit aussi nous, les personnes, on va dire, plus lambda. Et je trouve que oui, il faudrait vraiment légiférer cet outil, parce qu'il est vraiment bien, c'est vraiment super utile parfois, mais c'est tellement grave... de ce qu'ils font en fait les gens avec ça.
C'est lourd en conséquence. On a vu des jeunes se suicider à la suite de ces deepfakes, à la suite d'harcèlement à travers des images transformées. Moi, j'ai découvert une collègue qui m'a fait découvrir dernièrement Grok. On n'est pas là pour faire de la pub et autres, mais pour nommer les différentes applications. J'ai été inquiet de voir qu'avec une simple photo, je m'étais mis à me mettre à quatre pattes en faisant le signe de la Sainte Vierge auprès de ma collègue, alors que c'était une photo où j'étais juste à côté d'elle en train de manger la galette des rois. Donc ça m'a un peu bouleversé. Après, je suis allé quand même chercher sur Internet un petit peu par intérêt. Heureusement, aujourd'hui, on a la possibilité, à travers différentes plateformes, d'aller mettre l'image, de dire est-ce que c'est une source qui est générée par l'intelligence artificielle ou est-ce que c'est pas ingéré, parce qu'il y a toujours des codes sources et autres. Donc on arrive toujours. Mais le problème, c'est pas parce qu'on arrive à voir que c'est faux et que c'est une image qui est travaillée. Du moment qu'elle est partie sur la toile, elle y est. Et du moment qu'il y a eu un impact psychique auprès de la personne concernée ou les proches, qu'on nous dise oui, mais c'est faux, le mal était fait. Donc je suis pour une réglementation, à mon avis, très importante qu'on doit revoir. Greg ?
Je reviens juste sur ce qu'avait dit Eric, et que moi je suis tout à fait d'accord. Je ne pense pas non plus qu'elle est positiviste. Ce n'est pas ce que je disais. Je disais justement que c'est plutôt un outil qui peut être utilisé des deux manières. Ce qui est sûr, c'est que dans le cadre de la guerre de l'information et psychologique, ben c'est un outil suprême aussi pour les États, pour justement donner des résultats de recherche comme eux, ils le veulent, et pas comme nous, forcément, on le veut. Et moi, je sais qu'ils reçoivent des pressions extrêmes sur dans quel pays, comment va être utilisée l'IA, justement, pour rendre certaines informations ou d'autres informations. Et ça fait bien partie du problème de base, je pense, qui est vraiment là.
En tout cas, ce thème n'aura pas fini de faire couler de l'encre, parce qu'on n'est qu'au début dans ce cycle. Hein, on parlait du cycle de la vie, on n'est qu'au début du cycle de l'intelligence artificielle. De rappeler que ne prenez pas content ce qui est dit, ça peut vous permettre d'avoir une réflexion, ça peut vous permettre d'avoir des pistes, mais allez toujours vous confronter auprès de professionnels pour mettre une pensée critique. Hein, parce que ce que je rejoins d'Eric, c'est qu'aujourd'hui, on en parlait il n'y a pas si longtemps que ça aussi, par rapport à une musique dans la Minute d'Elvio qu'on salue, qui nous avait proposé une chanson qui était à 100% faite par l'intelligence artificielle, que ce soit le texte, la musique, le rendu. Et puis, on avait comme ça des consonances, comme ça, comme si un petit peu on avait l'impression qu'on entendait la voix d'un chanteur connu. Oui, c'est des serveurs où dessus il y a des bases de données et ils vont chercher toujours, et effectivement on peut se retrouver vite tourné en rond. En tout cas, moi ce que je vous propose, c'est qu'on se quitte gentiment sur quelques minutes avec la chanson The Spin de Empire of the Sun et Mac Miller, et on se retrouve dans quelques instants sur Pavillon Nomade. Like that, oh hi, welcome back to Kids. Follow your dreams. Yeah, wanna get a mansion, a jacuzzi, a theater to watch my movies, couple whips and lots of fancy things, the kids they call the goonies. I see the future, crystal ball, mirror, mirror hanging on the wall, who the flies, white boy of the mall, got your girlfriend screening all the calls, she bubbling, we fucking and you cuddling, like baby where the fuck you been, the one to tell you she in love with him, so so we ain't saying nothing, you could probably tell she bluffing, cause she kissed you with the mouth. And go to bed. You interrogate that bitch like you the feds. So she says she in love with a rock star. Rock star wanna smoke my weed. So she asked me where the tops are. Tops are. Oh, top drawer. Hey, John.
dans la ménagerie d'Eliane.
En ce temps glacial et neigeux, ma suggestion de la ménagerie sera le hérisson. Actuellement, il hiberne bien sûr, comme l'ours brun ou la tortue. Il va manger en quantité suffisante avant l'hiver pour supporter sa perte de poids de 30%. Le petit s'appelle le hérissonneau ou le choupisson. Pourquoi choupisson? C'est en 2009, il y a quelqu'un qui a dit que hérissonneau c'était trop dur. Il l'a baptisé comme ça, en fait, et c'est resté. C'est un mammifère insectivore. Il pèse de 400 grammes à plus de 1 kilo. Il a une durée de vie très courte, de 2 à 5 ans. Et ses piquants sont des poils durcis. Au printemps et en automne, il vit sous les tuyas et il a comme une horloge biologique dans sa tête, ce qui est idéal pour nous pour lui mettre quelques mini-croquettes de chat et un peu d'eau. Son métabolisme ne lui permet pas du tout de boire du lait et l'empoisonne. Aux États-Unis, il y a des scientifiques qui prétendent qu'il peut bouger ses piquants individuellement, à contrôler. Le guitariste du groupe Queen, Brian May, passionné d'hérisson, a créé un immense jardin clôturé avec plein de petits chemins, plein de petites maisonnettes pour ses petits protégés. Pour tous ces animaux qui hibernent cet hiver et qui ont ouvert un œil, une petite berceuse leur permettra certainement de se rendormir.
Somewhere over the rainbow, way up high, there's a land that I heard of once in a lullaby. Somewhere over the rainbow, skies are that you dare to dream really do come true. Someday I wish upon a star and wake up where the clouds are far behind me, where troubles melt like lemon drops away above the chimney tops. That's where you find me.
Il est 16h10 en direct sur les ondes de Pavillon Nomade après cette magnifique berceuse qui ne nous a pas endormi du tout, Eliane. D'ailleurs, en faisant le lien avec le premier thème proposé par Zaphir et le cycle de la vie, ça vit combien de temps un hérisson, Eliane?
Alors, leur durée de vie, c'est d'environ 2 à 5 ans. Pourquoi? Parce qu'ils sont confrontés à l'hiver, Il y en a beaucoup qui passent pas l'hiver. Et comme il vit sous les tuyas et que les tuyas sont interdits, maintenant, en tout cas dans le canton de Vaud, dans le canton du Valais, ils ont peu d'habitats qui soient tempérés en plein hiver. Voilà.
Ben merci. Moi qui suis assez darwiniste dans l'évolution hein, du cycle de la vie hein, et dans le domaine dans lequel on s'adapte, hein, dans l'environnement, en œuf, Eric, vous me disiez que une hypothèse possible, c'était... Prenez seulement
alors, c'était la quantité de hérissons qu'on voit écrasés au bord des routes et des autoroutes. Donc, tout au long de l'année, en dehors de l'hiver, effectivement, puisque c'est le moment où ils hibernent, j'imagine que ça a une grosse influence sur la durée de vie de ces petites bêtes et qui n'ont pas forcément une bonne image auprès de tout le monde aussi. Voilà.
C'est vrai que c'est quelque chose de comme ça qui est très joli au prime abord. Et puis on s'en approche. Moi, je me souviens que j'ai petit, c'est on s'en approche et qui s'y frotte s'y pique. Donc
oui, et puis ils se mettent en boule.
Ils se mettent en boule. Et puis puis ça fait mal. Hein. Zafir.
Ça me fait revenir à l'idée du cycle aussi parce que ben de faire un parc pour que ces bêtes-là n'aient plus à craindre pour leur vie. Et à mon niveau personnel aussi, d'avoir traversé ce cycle qui forcément était un peu tout difficile, peut-être un peu plus que les autres. Mais ben, pour dire qu'on peut tous faire symboliquement et réellement une petite attention ou bien traiter ces animaux-là comme tous les autres aussi. Et puis que ben, moi, je garde en tout cas cet espoir que ça puisse vraiment rentrer dans la tête des gens et puis que surtout les gens arrivent à comprendre parce que c'est souvent le problème, c'est la compréhension. On comprend quelque chose pas de la bonne façon et puis après on regrette peut-être dans la vie après certaines années. Donc j'ai bien aimé votre chronique.
C'est vrai que souvent la méconnaissance d'un animal fait que on s'en occupe pas comme il faudrait. Je ferai juste une parenthèse avec le cheval. On ne doit pas donner du pain sec ou pain frais à un cheval. Il peut s'étouffer ou faire des coliques, c'est-à-dire une torsion intestinale, et ça peut être, c'est souvent mortel. Hein.
Tout à fait. Apprenons plutôt que de penser de faire juste. Ça vient avec le cœur, ça part d'un bon sentiment, mais on ne devient pas vétérinaire ou spécialiste en un claquement de doigts. Donc j'invite les gens, oui, et en plus c'est très intéressant à avoir une ouverture et puis pouvoir s'enrichir aussi au niveau de leur culture et de tout.
Merci Greg, on vous écoute.
Ouais, pour finir sur une petite touche humoristique, on va dire que le hérisson, moi, il a la chance qu'on ne le mange pas. Ce qui fait que ça rehausse peut-être un petit peu la statistique et au moins il a une vie en liberté ou en tout cas en Suisse. Alors,
je sais pas s'il se mange pas parce que est-ce que le porc épic ça se mange? J'ai entendu dans certaines cultures le ringondin, enfin il y a plein de cultures qui mangent. Est-ce qu'un hérisson ça se mange, Eric, vous qui avez une idée peut-être?
J'ai pas l'information précise, mais il y a une chanson qui parle de je sais plus qui chante ça. Et qui parle des gitans et de leur façon de cuisiner le hérisson. Donc apparemment, il y a des personnes qui le mangent.
Il y a certaines personnes qui le mangent. Bah alors si ça, j'essayais pendant que vous cherchez, je demandais un petit peu sur Internet, est-ce que le hérisson, alors je le fais en direct comme ça, vous allez voir, est-ce que les hérissons se mangent? Alors non, pas l'IA. Oui, parce que c'est l'IA qui va me répondre en premier. Il va me dire oui, le hérisson. Ah non. Il mange beaucoup et carnivore. Bon, bah voilà, vous avez vu l'exemple que ça a donné. On pose une question simple à Elia et elle nous répond à côté. Enfin, je dis ça, je dis rien. Bonne résolution. Promesse sincère ou illusion de janvier? Janvier, un mois où l'on décide avec conviction impressionnante que cette année sera différente. La bonne résolution naît généralement le 31 décembre et pas des moindres à 23h57. On va faire du sport, manger plus sainement, être plus zen et parfois même répondre aux messages sans attendre 3 jours. Mais alors, ces résolutions de janvier sont-elles des promesses sincères, pleines d'espoir ou de jolies illusions saisonnières condamnées à disparaître avant la galette des rois? D'ailleurs, avant qu'on rentre dans le vif du sujet des bonnes résolutions. Est-ce que vous savez d'où viennent les traditions de la galette des rois?
Pas du tout.
Personne ? Quelqu'un aurait une hypothèse ou a envie de s'essayer à se dire, bah tiens, si vous deviez répondre à un enfant ou à quelqu'un qui vient pour la première fois dans votre région, de dire, mais c'est quoi la galette des rois ? Ça vient d'où ? Comment ? Fiona ?
Mais c'est pas les rois qui sont allés voir du coup Jésus et qui retournent, je crois, dans leur pays ?
Les rois mages,
c'est ouais, pas ça ?
Oui, ouais, c'est bien, on a gentiment. Hein. La tradition de la galette des rois française est une fête, alors française, hein, parce que ça a été exporté après un petit partout, hein, est une fête de partage héritée des Saturnales romaines célébrées en janvier pour l'épiphanie, visite des rois mages, vous avez tout à fait raison. Elle se compose d'une galette feuilletée à la frangipane au nord ou de brioche au sud avec une fève cachée. Celui qui la trouve devient roi-reine et porte une couronne, tandis qu'un enfant désigné désigne les part sous la table, perpétue un rituel ancestral de tradition et d'inversion des rôles. Est-ce que vous saviez, moi on m'a toujours donné la galette, mais moi ma maman elle mettait un tissu, on mettait les mains dedans, mais je savais pas que c'était le plus jeune qui devait se mettre sous la table et qui devait désigner le qui allait avoir la part. Qui c'est qui fait encore de cette manière-là ? Fiona ?
Alors moi c'est pas du tout de ma religion, mais j'ai fait plusieurs fois ça avec des amis. Et oui, c'était vraiment le plus jeune qui devait aller sur la table, désigner en fait, le gâteau et à qui allait ce gâteau. Et c'était très intéressant.
En fait, je ne comprends pas très bien. Le jeune qui était sous la table, il n'avait pas la fève.
Non.
Mais qu'est-ce qu'il choisissait alors ?
Les parts.
Bah, les parts. Il se met sur la table, il dit ce gâteau ira à, par exemple, Jimmy. Ce gâteau ira à Saphir. Ce gâteau ira à Greg. Ce gâteau ira à Lola. Et à la fin, bah, on mange notre part. Et du coup, après. On verra qui a la fève ou pas.
D'accord, merci beaucoup.
Et qui sera le roi ou la reine.
Puis les fèves vont évoluer avec le temps, parce qu'avant on avait un roi, une reine, puis maintenant on a des sapins, on a des voitures, finalement c'est devenu très marketing aussi en termes de d'héritage, on pourrait dire, commercial. Pour revenir à nos bonnes résolutions, pourquoi on en prend et est-ce que les bonnes résolutions répondent à un vrai désir personnel ou plutôt une pression sociale ? Greg, on vous écoute.
Bah, moi, je pense surtout que l'histoire des résolutions, enfin, disons que l'homme, pour reprendre un petit peu Monsieur Jancovici, hein, dans les grandes lignes, il a toujours besoin d'un choc pour changer. Et c'est pas un matin en se réveillant qu'on se dit ah ben tiens aujourd'hui on va sauver le climat. Il faut toujours des chocs. Et c'est pour ça que, par exemple, quand il y a eu Fukushima, ça a créé un choc qui a changé beaucoup de choses. Mais par contre, le charbon qui tue 8 millions de personnes par année, ça choque personne parce que ça s'évapore un peu comme ça sur le temps. Donc, ce qui fait qu'on voit bien qu'est-ce qui provoque les changements. Et est-ce que le 31 fait que ça crée vraiment un choc chez les gens ? Je pense pas. Donc, c'est souvent plutôt on se dit ouais, on essaye, et puis ça marche rarement parce que ben, c'est en vrai pas forcément un choc.
Voilà. Ouais, c'est un point de vue qu'on partage ou pas, ou de Eric ?
Alors, j'ai une explication qui peut donner à comprendre un peu plus pourquoi on a de bonnes résolutions à cette période. C'est qu'on fonctionne énormément avec des rites de passage. Et le 31 décembre, la Saint-Sylvestre, est un rite de passage. On termine une année, on en ouvre une autre. Et en anthropologie, c'est des moments très importants qui, en fait, dans la vie, dans le quotidien, on pourrait imaginer que le rite de passage peut être adapté en n'importe quelle situation. On démarre la journée, c'est le préliminaire, le courant de la journée, c'est le liminaire, et le post-liminaire, c'est la fin de la journée. Et pareil pour l'année, pareil pour tout un tas d'événements. Et avoir cette idée de rite de passage est intéressante parce que ça nous donne l'occasion de chaque fois remettre un peu le travail sur le métier et puis d'essayer de progresser. Si on a le souhait de transformer des choses en soi ou autour de soi, ça peut être une raison et un moment propice pour démarrer certaines choses, pour prendre, comme on le dit, de bonnes résolutions.
Bah merci pour ce point de vue, Lola.
Moi, c'est pour revenir sur ce qu'il a dit, Greg, du coup. Moi, je ne pense pas qu'il y ait besoin de choc pour avoir une bonne résolution. Je pense qu'on a juste peut-être envie de vouloir faire mieux pour l'année qui vient. Peut-être qu'on a vécu des choses l'année précédente, on a envie de faire autrement pour l'année qui vient. Et ce n'est pas nécessaire d'avoir un choc pour changer. Les gens, ils ont peut-être juste envie d'évoluer comme ça dans leur vie, quoi.
Bah, c'est vrai, ça me fait penser à ce que j'avais aussi réfléchi, de se dire, est-ce que prendre une résolution, c'est déjà reconnaître qu'on ne va pas très bien. C'est un petit peu ce que vous disiez, Lola.
Oui, bah du coup, je pense que on arrive tous quand même à un certain niveau à avoir une introspection sur nous-mêmes et à se dire, bah ça, je pourrais faire mieux. Ou même pas forcément sur notre comportement, mais peut-être se dire, bah en 2026, j'ai envie de plus voyager ou des trucs comme ça. Mais oui, c'est aussi se rendre compte que oui, parfois on ne fait pas les choses hyper bien, puis c'est bien de, bah, de vouloir progresser, quoi.
Mmh, merci. Safia, on vous écoute.
Alors, à titre personnel, c'est vrai que, je dois dire, on met toujours une date, que ce soit le 1er janvier, etc. Moi, j'ai arrêté l'alcool le 23, et j'en suis bien content, parce que je pense qu'en étant vraiment décidé, peut-être que le 1er, ça aurait pas marché. Parce que j'entends par là qu'on se met beaucoup de stress, de pression, pour se dire, voilà, alors attention, c'est bientôt le moment où... Alors, je pense que ça nourrit plus des inquiétudes et puis de l'anxiété. Alors que si un jour on se dit, je le sens, je vais essayer, je le fais, c'est peut-être l'approche est un peu différente, peut-être selon moi.
Oui, Greg, on vous écoute. Ouais,
juste pour revenir sur ce que disait Lola. Alors, je suis tout à fait d'accord avec ça aussi. Hein. Moi, c'était plus dans l'idée de se dire que si on a des choses à changer ou qu'on souhaite autrement, bah, est-ce qu'il y a besoin d'attendre le 31? C'était plutôt ça, après, dans ce sens-là. Absolument. Qu'on peut plutôt faire, je pense, toute l'année, se remettre en question ou décider des choses qu'on a envie.
C'est un peu
après,
comme
le 31,
un peu comme...
c'est quelque chose de symbolique, peut-être.
Ouais. Un peu comme la journée de la femme. Est-ce qu'on doit avoir un jour particulier pour dire qu'on doit être respectueux?
Ça devrait
de la femme.
Plus exister, on
devrait être respectueux tous les jours. Hein. Alors finalement, est-ce que les bonnes résolutions, on devrait pas les prendre tous les jours? D'ailleurs, la question, c'est aussi, qui, autour de la table, n'a jamais pris de résolution et pourquoi? Ah, bah, je m'attendais à avoir plus de mains levées, mais en fait, non, on est tous pris par... est-ce que c'est une habitude ou pas? Mais semble-t-il qu'il y a plus de gens qui réfléchissent à leur bonne résolution. Alors, du coup, je serais intéressé, Eliane, vous qui n'avez jamais pris de résolution, pourquoi de bonne résolution?
Parce que ça ne sert à rien. Pour moi, ça ne sert à rien. Je peux prendre une bonne résolution dans l'année, mais qu'on soit le 24 ou le 31 décembre, ça ne va pas du tout changer ma vie ni ma manière de penser. Peut-être c'est à cause des années aussi.
Oui, peut-être. Et puis pour ceux, alors vu qu'il y avait pas mal de gens qui n'ont pas levé la main, je vois qu'il y en a pas mal qui ont pris des bonnes résolutions, quelle est la résolution la plus ambitieuse que vous ayez prise et que vous avez abandonnée en février? Ah, je vous ai... Oui, vous n'aviez pas entendu la fin de la question, mais
non,
c'est pas grave.
Oui, c'est ça. Je pense le fait que j'ai toujours dit que j'allais arrêter le sucre et qu'un mois plus tard, j'avais des bonbons dans ma chambre, des gâteaux, etc. Donc, je pense l'arrêt du sucre.
L'arrêt du sucre. Donc, et vous n'allez certainement pas la seule. Je partage aussi cette résolution-là. Quoique moi, je ne suis pas pour les résolutions aussi. Hein. Je pense qu'on doit faire au mieux tous les jours. Mais j'ai essayé aussi de me dire, allez, on va essayer de prendre un peu moins de sucre. Et puis, moi, c'était bien avant février que j'avais arrêté cette résolution.
Moi, c'était le lendemain. C'était le lendemain.
D'autres... Eric, on vous écoute.
Juste préciser que finalement, on a effectivement, comme plusieurs personnes l'ont dit, on n'a pas besoin d'une date... butoir comme le 31 décembre pour prendre des résolutions. Mais l'idée de résolution, de bonne résolution, on peut le faire toute l'année, effectivement. Et ça reste dans cette construction d'un rite de passage où on termine quelque chose et on ouvre un autre chapitre. Donc ça peut se faire tout au long de l'année.
Ouais, c'est vrai. Puis souvent, je me dis, est-ce que faire un peu mieux est parfois plus sain que faire parfaitement, qu'à vouloir à tout prix se dire, déjà de se dire, allez, avançons par étape. Mathéo, je vous vois hocher de la tête.
Je suis très d'accord avec Eric et ce que disaient les gens à propos du fait que Nouvel An devrait être tous les jours et continuellement. Il y a un très beau texte d'Antonio Gramsci, qui est le fondateur du Parti communiste en Italie, qui a écrit un texte qui s'appelle « Je hais le nouvel an », dans lequel il dit que tous les jours devraient être nouvel an, et tous les jours, la conscience pour une émancipation en fait, individuelle doit être maintenue en éveil et pas attendre ce moment où tout le monde atteigne en fait, la fin d'une année. Et je trouve que les résolutions à la fin d'une année deviennent impersonnelles. Elles ne nous appartiennent pas parce qu'elles sont... elles nous sont un peu imposées comme un rite collectif de devoir choisir des résolutions pour l'année suivante, mais c'est jamais une impulsion personnelle, mais c'est vraiment une tradition collective dans laquelle on s'enlise. Donc moi je trouve que ça ne nous active pas en fait.
Ouais, c'est un peu comme si on parlait de ce qu'on avait en filigrane tout au long de notre émission, finalement le cycle de la vie. C'est un peu comme si on devait attendre la fin de l'année pour se dire, allez, maintenant je rentre dans un nouveau cycle, je vais être mieux. Mais en fait, pourquoi attendre la fin de l'année pour se poser ces questions et finalement d'essayer d'être un petit peu plus attentif à soi, hein, Zafir.
Et quelle charge, j'ai envie
oui,
de dire.
Oui, quelle charge aussi émotionnelle.
Au mois d'août, j'ai fait ça. Et puis d'un coup, paf, alors entre les fêtes de Noël et le 31, il faut tout améliorer ça pour que le 1er,
ça soit OK, pour pas que ça arrive. Moi, j'en viens aussi de faire petit à petit les choses, et puis de, plutôt que d'avoir une grosse boule de neige en fin d'année de problèmes, ben, regardons le soleil en été, regardons qu'est-ce qu'on peut faire déjà en été. Ouais, c'est vrai que je rejoins aussi ce que disait Eric, c'est tout le temps qu'il faudrait le faire. C'est pas seulement à la fin de l'année, parce que ça porte une charge et un stress très très grand.
Eliane ?
Pour rebondir à ce que dit Saphir, moi je trouve que à chaque jour suffit sa peine, et quand on est moins bien, c'est un pas après l'autre.
Exactement.
C'est vrai, vous avez tout à fait raison. Alors, je ne sais pas si quelqu'un a envie encore de s'exprimer sur ces bonnes résolutions, qui a envie de faire part finalement, de se dire bah non, moi je prends des résolutions chaque année, et puis j'ai envie de partager la résolution que je vais prendre pour cette année, pour soi et pour quelqu'un. Non ? Alors, moi, ce que je vous propose, c'est de faire déjà une petite conclusion. Hein. Le problème avec les bonnes résolutions, ce n'est pas de les abandonner, mais de vouloir tout changer d'un coup, je pense. La santé mentale, ça se travaille doucement. Un peu plus de douceur avec soi, un peu moins de pression, hein, comme vous disiez, Saphir. Hein. S'écouter un peu plus. Alors, peut-être que la meilleure résolution, ce n'est pas de devenir quelqu'un d'autre, mais de prendre soin de soi ici et maintenant. On arrive gentiment à la fin de notre émission. Merci à vous d'avoir été à l'écoute. Merci à nos invités du jour pour leurs mots, leurs émotions, leur partage. Attention, la neige a commencé à tomber. Là, ça s'est atténué, mais ça annonce pas mal de neige pour ces prochains jours. Faites attention, vous n'êtes pas seul sur la route, pensez aux autres. Et puis, il vaut mieux arriver en retard que pas du tout. On se retrouve jeudi prochain pour une nouvelle escale sur les ondes de Pavillon Nomade. On se quitte avec une super chanson de Cynthia Emilia, Tout le bonheur du monde.
Tout le bonheur du monde, et que quelqu'un vous tende la main, que votre chemin évite les bombes, qu'il mène vers de calmes jardins. On vous souhaite tout le bonheur du monde, pour aujourd'hui comme pour demain, que votre soleil éclaircisse l'ombre, qu'il brille d'amour au quotidien. Puisque l'avenir vous appartient, puisqu'on ne contrôle pas votre destin, que votre envol est pour demain. Qu'on a à vous offrir ne saurait toujours vous suffire dans cette liberté à venir, puisqu'on ne sera pas toujours là comme on le fut au premier pas. On vous souhaite tout le bonheur du monde, et que quelqu'un vous tende la main, que votre chemin évite les bombes, qu'il mène vers de calmes jardins. On vous souhaite tout le bonheur du monde, comme pour demain, que votre soleil éclaircisse l'ombre, qui brille d'amour au quotidien. Toute une vie s'offre devant vous, tant de rêves à vivre jusqu'au bout, sûrement tant de joie au rendez-vous, libre de faire vos propres choix, de choisir quelle sera votre voie et où celle-ci vous emmènera. J'espère juste que vous prendrez le temps de profiter de chaque instant. On vous souhaite tout le bonheur du monde, et que quelqu'un vous tende la main, que votre chemin évite les bombes, qu'il mène vers de calmes jardins. On vous souhaite tout le bonheur du monde, pour aujourd'hui comme pour demain, que votre soleil éclaircisse l'ombre, qu'il brille d'amour au quotidien. Votre chemin évite les bombes, qu'il mène vers de calmes jardins. On vous souhaite tout le bonheur du monde, pour aujourd'hui comme pour demain. Que votre soleil éclaircisse l'ombre, qu'il brille d'amour au quotidien. On vous souhaite tout le bonheur du monde,
choisit ni son origine ni sa couleur de peau. Comme on rêve d'une vie de château quand on filme ghetto. Laisse les taux autour du cou comme Cosette pour Hugo. Est en tri de conflit et prier le très haut. Fils du CO, NGO, cette NGO, M-I-C-R-O. J'ai le poids des mots, sortir d'en bas, rêver déchirer ce tableau. Fait d'armes, de larmes, fait de sang et sanglots.
Face à la mer, j'aurais dû grandir. Face contre terre, j'aurais pu mourir. Je me relève, je prends mon dernier rêve.
Tous deux la même dalle et tous deux déçus.
Je prends mon dernier
rêve. La sécheresse sur une terre où on ne cesse de semer. Tristesse dans des yeux qui ne peuvent pleurer. J'ai beaucoup de rêves lointains, je me suis tant rebellé. J'ai bu beaucoup de baratin et ça m'a trop saoulé. Dans la vie, y'a l'État profond et l'État à côté. L'État pas un euro ou la tape à l'arracher. Y'a l'État, les RMistes, l'État qu'à t'as fait. Si t'es en bas, faut cravacher, t'as qu'à pas lâcher. T'as pas connu ça toi, l'envie d'empocher les patates. Être à gauche, droite, face à la mer, loin des galères. T'as pas connu ça, l'envie de t'en sortir, distribuer les patates. Des gauches, droites, avec un air patibulaire.
Face à la mer.
S'étouffe dans le goudron, cette matière grise dont le pays n'a pas fait acquisition. On se relève, on part à fond, on vise le Panthéon. J'en place une à ceux qui en ont, qui rêvent consécration. La dalle, la niaque, je l'ai comme mes potes longs. On veut toucher le ciel étoilé sans baiser le pantalon. Trop peu de bonnes fées et trop de cendrillons. Calopatie 2004, action.
Face à la mer,
ouais.
J'aurais dû grandir. Jeune pour mourir.